Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Tadej Pogacar qui se retourne encore une fois pour constater l'écart abyssal qui le sépare aujourd'hui de ses concurrents et notamment de Mathieu Van Der Poel. Tadej Pogacar en arc-en-ciel et roi des Flandres de nouveau aujourd'hui.
Mathieu Van Der Poel a lancé très loin, il ne reste que quelques mètres, il est trop fort Mathieu Van Der Poel et il semble surdominer cette arrivée. Tadej Pogacar derrière Philippe Ogana, mais c'est Mathieu Van Der Poel, le néerlandais, qui va s'imposer.
Oh, il démarre Tadej Pogacar. C'est un killer, c'est un tueur. Tadej Pogacar, le maillot jaune n'est pas un seigneur, c'est un killer. Tadej Pogacar en difficulté dans ce col de la Loze, alors qu'on n'est pas du tout dans les pentes les plus difficiles du col de la Loze.
C'est parti,
tout seul Vingegaard désormais dans le col de la Loze. Il n'y a plus personne avec lui.
Tadej Pogacar qui n'a plus que quelques coups de pédale à donner. Il donne de ligne de la tête, il passe de la gauche de la route vers la droite de la route. Oui, Tadej Pogacar va devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière.
La bicyclette.
Personne ne chante là, je suis un peu
déçu. Qu'elle avait 8 ans.
Mais ça pourrait être Jérôme qui chante, c'est son émission. La moindre chose, c'est qu'il chante.
Ouais, moi, je suis solidaire avec les coureurs de Paris-Roubaix. Si je chante, il pleut et eux, ils glissent. Donc moi, je chante pas.
Il y en a un qui déjà plu, c'est déjà plutôt mouillé.
Une fois, ça, c'est sa chanson préférée, c'est Christophe Cessieux. Voilà, Christophe
c'est
est avec
génération.
Nous.
Bah voilà. C'est ma génération, il évidemment. Ils connaissent pas. Yves Montand, ils connaissent pas. Et c'est, pour eux, c'est un vieux
bien
souvenir.
Bien sûr qu'on connaît Montand.
C'est le...
il a traversé les époques, Yves Montand, quand même.
Ouais.
Ah, mais bah,
Christophe, il a commencé, Montand.
j'allais le voir quand son tour de chant à Marseille, quand Yves Olivio, évidemment, dans les années 40. Magnifique.
Magnifique. Christophe, tu es à Roubaix, on le rappelle, bien sûr. Avec Maria Azé, tu vas nous faire vivre ce Paris-Roubaix très attendu. On en a parlé depuis le début du week-end, avec notamment la présence de Tadej Pogacar. Des classiques qui deviennent des événements, pas seulement d'ailleurs pour les fans de vélo. Alors, est-ce qu'on est en train de vivre, les grandes gueules, les plus belles heures du cyclisme? Oui ou non? Fred Weiss.
Oui.
David Douillet.
Non.
Sarah Pitkowski.
Oui.
Jérôme Pinault.
Non.
Christophe Cessieux.
Non.
Ouh, 3 non, 2 oui.
D'un seul coup, je me sens beaucoup moins bien sur ce
Fred Weiss
oui.
Avec Sarah Pitkowski vont faire équipe. Justement, Fred, tu voulais commencer en tant que spécialiste du vélo. On t'écoute est-ce qu'on est en train de vivre les plus belles heures du cyclisme? Juste quelques chiffres quand même. Le Tour des Flandres la semaine dernière, record historique sur Eurosport pour les courses de vélo. Près de 700 000 téléspectateurs cumulés. Sur France 3, c'était plus d'un million de personnes qui ont regardé cette course.
Énorme.
Des chiffres qui devraient être encore plus élevés sans doute aujourd'hui pour Paris-Roubaix.
Oui, alors pour moi, oui, parce que justement, je ne suis pas spécialiste de cyclisme et je m'y suis intéressé. Alors déjà, grâce au magnifique Christophe Cessieux et au magnifique Jérôme Pinault, évidemment, parce qu'ils m'ont permis d'adhérer au Tour de France notamment. Mais c'est surtout que je vois des choses incroyables. Moi, le Pogacar, ça me rend fou, ça me remplit de joie. Je vois une légende, je vois quelqu'un qui est inspirant, je vois quelqu'un qui domine tout le monde. Alors oui, j'ai entendu les rageux, les fans soi-disant de cyclisme qui parlent toujours de dopage, qui disent toujours qu'il y a des problèmes, etc. Moi, je ne vois pas ça. Pour moi, il est à l'eau claire. Et à l'eau claire, c'est un coureur fantastique. En plus, il a cette capacité à me faire aimer les monuments. Les monuments, je savais même pas ce que c'était. Je connaissais Paris-Roubaix.
Et
à la limite, je connaissais mieux le Paris-Brest que le Paris-Roubaix, concrètement.
Oui, le dessert,
Paris-Brest, ça a changé,
il a plusieurs fois.
Et donc, je me dis... Ce coureur est fantastique. Alors oui, en plus, il a un petit peu de concurrence, même s'il vampirise un petit peu tout, il a de la concurrence. Mais il est fantastique. On est en train d'assister à une légende qui arrive à maturité et qui va nous faire ça.
C'est pour ça qu'on vit les plus belles heures du cyclisme. C'est parce qu'il y a Tadej Pogacar pour ça.
Pour chez les garçons et chez les filles, on l'a expliqué tout à l'heure.
Ouais,
cette capacité. Exactement. Donc, je me dis, on a des Françaises qui risquent de gagner le Tour de France. On a ce Pogacar qui est juste monstrueux, qui est en train d'entrer dans la légende et on a la chance de vivre ça. Pour moi, encore une fois, néophyte de cyclisme, je vis mes meilleurs moments parce que je kiffe, tout simplement.
Sarah, tu veux venir en aide à Fred
Je suis sur un peu la même lignée, c'est que le cyclisme, pour moi, c'était le Tour de France. Voilà. Et aujourd'hui, de voir des coureurs du Tour de France briller sur d'autres courses que celles du Tour de France, eh bien, je trouve ça extraordinaire et ça me permet de m'intéresser au sport de manière globale. Voilà. Donc c'est un peu comme Fred, mais encore une fois, le fait de se dire qu'il n'y a pas que des, enfin, qu'il n'y a pas que le Tour de France quand on parle de vélo, comme quand nous on dit, on parle de tennis et qu'il y a Roland Garros. Voilà.
Exactement. C'est trop réducteur et ça nous a permis, nous, les néophytes, à nous entraîner, donner envie de regarder autre chose que le Tour de France, justement.
Exactement. De reprendre l'histoire des grandes classiques et de voir les profils des courses et encore une fois, de pouvoir nous expliquer, d'y avoir de la pédagogie en plus de ça pour comprendre. Bah, quand t'aimes le sport.
Alors je suis assez étonné, David, toi tu dis non. Ouais. C'est pas les plus belles heures du cyclisme, toi qui es fan de vélo.
Non, parce que j'ai conservé ma mémoire, moi. non, mais
trouve-le.
Moi, bah oui, ça va être assez simple. Mais non, mais enfin, la génération de Merckx pourrait vous donner 1000 arguments pour étayer le contraire. Mais enfin, je veux dire, c'est toujours moi ça. C'est toujours compliqué, je trouve toujours compliqué de comparer des époques. Parce que c'est pas du tout la même chose. Et donc pour moi chaque époque est belle. L'époque de Fignon, l'époque d'Hinault, l'époque d'Indurain, l'époque de Merckx, etc. Ça a été des fabuleuses époques du cyclisme, des grandes époques du cyclisme. Sauf que là aujourd'hui, on a une époque où ben, c'est vrai, il y a plus de médias, il y a plus de réseaux sociaux, on en parle peut-être un peu plus. On en parlait tout à l'heure, il y a l'avènement du cyclisme féminin, et tant mieux, qui vient renchérir un petit peu tout ça. Il y a des courses qui se sont améliorées, la Vuelta, le Giro sont devenus... sont des courses qui se sont affirmées, donc qui sont encore plus diffusées. Donc on a plus de moyens d'accès aux courses et aux classiques qu'avant. Cet argumentaire,
David, je t'interromps une seconde. Cet argumentaire est magnifique pour nous donner raison. J'adore. Continue.
Non, parce que justement, ma dernière phrase c'est la suivante. C'est-à-dire que si on a eu les mêmes moyens à l'époque de Merckx, Hinault, Fignon,
oui, mais c'est pas le cas. Avec les chiffres, tu pourrais pas dire ça.
Tu ne pourrais pas dire ça. On avait des coureurs majestueux, avec du panache, avec du caractère, avec autant de concurrence qu'aujourd'hui, voire quelquefois quasiment plus, avec des histoires de dingue. Et si tu remontes dans le temps, et Christophe est un spécialiste, un merveilleux spécialiste pour ça, et ben je te jure que quand il te raconte une belle histoire d'avant, et ben tu te rends compte que les grandes époques du cyclisme, elles ont existé à chaque génération.
Ouais. Christophe, tu veux répondre, toi qui sais remonter dans le temps, évidemment.
Je suis entièrement sur la ligne de David. On vit une époque formidable, je vais y revenir, mais tu peux pas dire aujourd'hui que la période actuelle est la plus belle de l'histoire du vélo. Rappelez-vous la bagarre entre Poulidor et Antil. Moi je m'en rappelle pas, j'étais pas né, personne.
Bah non, justement, on va s'en rappeler.
Oui, mais enfin, c'est pas parce qu'on n'a pas connu ça qu'on peut pas se plonger dans les livres d'histoire.
Les reportages radio
de l'époque, les reportages télé, c'était exceptionnel, la montée du Puy de Dôme entre ceux de gars, c'était énorme. Peut-être un truc un peu plus récent dont vous pouvez peut-être vous rappeler, 1989, la dernière étape du Tour de France, Fignon face à Lemon, les 7 secondes qui séparent les deux hommes, c'était magique.
Ça, c'était
un moment incroyable. Charlie Gaulle, Bahamontès, c'était énorme. Ocaña, Merckx dans la descente du col de Manté, il y a eu des moments exceptionnels. Le vélo est un sport magique et un sport qui passe toutes les générations. Tous les gens de chaque génération a vécu des moments exceptionnels avec le vélo.
Oui, mais moi j'ai un argument pour toi, Christophe. J'ai un argument pour toi. Je suis d'accord avec toi. C'était magnifique avant et ça l'est aussi maintenant. Et de ce point de vue-là, on peut pas comparer. Sauf que par rapport à la couverture médiatique, par rapport à comment c'est diffusé, par rapport au fait qu'on continue à gagner des spectateurs, c'est un vrai point positif.
Je ne suis pas d'accord avec toi parce que le sportif, vélo, c'est le sport le plus radiophonique qui existe. Écouter un reportage de radio, de cyclisme en radio, tu devines les choses, tu imagines les choses et c'est encore plus beau et c'était encore plus magique quand dans les années 60-50 tu entendais les mecs qui commentaient le Tour de France avec une moto, t'avais le petit son qui sifflait, il y avait les gens qui étaient installés, ils étaient installés devant leur poste de radio et ils écoutaient tous en famille. Il faut s'intéresser au passé pour comprendre ça.
Christophe, sache que moi je t'écoute et je m'intéresse au passé, sauf qu'à un moment il faut avoir un vrai bilan de ce qui se passe. Ce qui se passe actuellement, c'est que ça intéresse plus de gens parce que la portée médiatique est plus importante et de ce fait
parce que il y a plus de monde, ça intéresse.
Ça intéresse peut-être aussi des gens qui.
Mais ça intéresse de plus en plus de gens qui ne s'intéressent pas.
Très bien,
exactement. Et donc, c'est pour ça que je dis le ratio qualité proposé par les sportifs et le ratio à cumuler avec le ratio des gens qui écoutent, des gens qui regardent, des gens qui s'intéressent plus au sport, je trouve qu'on vit une meilleure époque qu'avant.
Vous
avez quand même occulté une période de dopage qui a dégoûté quand même pas mal de personnes. Parce que là, vous êtes en train de me parler avant.
La période Indurain ne m'a pas fait rêver.
Mais il y a cette période où, avec Lance Armstrong, où on est tous
personne ne l'a cité, j'ai remarqué ça.
On est tombé d'une falaise où on a vu la vérité en face. Et forcément, ça a fait du mal à ce sport-là, et qu'aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, je pense qu'on peut les compter sur pas loin de, on est sur une petite dizaine d'années, où aujourd'hui les scandales n'existent plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais en tout cas les scandales n'existent plus.
En tout cas, ça veut dire qu'il n'y a pas.
Aujourd'hui, tu peux suivre ce sport.
Dans une époque de renaissance complète où médiatiquement c'est incroyable.
Mais il a fallu les digérer années.
Sauf que je suis d'accord avec toi, tu repartais pas de zéro, tu partais de -10. Le travail qu'a fait le vélo là, et justement l'image qui a été donnée au vélo maintenant, et encore une fois, on espère qu'il n'y ait pas de problème de dopage en attendant, mais à l'instant T, ça intéresse tout le monde. Donc moi, je pense
Tu peux pas clouer l'histoire du vélo à une période où le dopage a été systématique. C'est pas vrai. L'histoire
non, mais c'est le travail qui a été fait pour remonter la pente qui est incroyable. Et les qualités sportives qu'on voit actuellement et les qualités de télétransmission et de radiotransmission sont merveilleuses à notre époque. Et c'est en ça que je dis que c'est incroyable.
Mais au niveau de la compétitivité, de la richesse des coureurs et de leur potentiel, de leur exploit, etc.
David, ça a toujours existé.
Mais la compétitivité, oui, mais pas.
Enfin, je suis pas d'accord avec les retransmissions. Il n'y avait pas autant. Ça intéressait moins de gens. C'était moins populaire.
Le cyclisme était le sport le plus populaire à l'époque. Exactement. Dans les années 50-60, Fred. Il y avait deux sports qui sortaient du lot. C'était en France, en tout cas. C'était la boxe et le cyclisme. Et ils étaient au-dessus du rugby, évidemment, qui à l'époque était vraiment un sport complètement régional. Et du foot, qui était en train de monter, mais qui n'avait pas encore atteint ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et voilà, donc c'était
c'était des héros du
sport et du peuple français.
Jérôme Pinot. Et moi, je vais être très très terre à terre, mais Christophe, en racontant toutes les histoires, a cité un élément commun à tout ça. Aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, dans ce cyclisme-là, il me manque quelque chose.
Oui.
Un Français.
Ah.
Il me manque un Français qui va lutter avec.
C'est pour ça qu'on a parlé des femmes.
Il me manque ce côté cocorico, ce côté cocardier qui me fait vibrer. Moi, j'ai vibré alors avec n'importe quelle époque. Mais t'as parlé Anquetil, Poulidor. On n'oubliera pas Jalabert, Virenque, qui nous ont fait vibrer mine de rien. Oui, c'est dans une époque un peu compliquée. Mais aujourd'hui, je l'ai pas. Et juste, il y a pas longtemps, il y avait Julien, quoi. C'est-à-dire que les Ardennaises arrivaient, on prenait tôle sur tôle dans les pavés, mais Julien arrivait.
Et Pinot aussi.
Et Pinot dans les grands tours. Oui. Là, aujourd'hui, on a. Moi, j'ai pas ça. Et c'est l'élément supplémentaire. Évidemment que j'aime mon sport et je suis passionné avant d'avoir fait de ce sport mon métier. Mais dans ce côté, est-ce qu'on vit les plus belles heures? Non, parce que j'ai pas mes Français.
Mais est-ce que c'est pas
là,
ça justement qui est extrêmement fort? C'est que votre sport, où il n'y a pas de Français qui domine actuellement, il est quand même
en tête d'affiche.
Et il passionne quand même. Moi, je trouve que passer
là, mais la question,
il y a une culture de ce sport dans notre pays.
C'est magnifique.
Mais parce qu'il y a le plus grand événement cyclisme au monde sur le sol français.
Et
les Tours de France, on ne parlerait pas de ce sujet-là.
Et pour avoir assisté à cette semaine, il y avait le tour de la région des Pays de Loire, le Reggio Tour. Il y avait un monde incroyable sur le bord de la route. Pourquoi? Parce que c'est le sport gratis. Ça a toujours été. Donc, il touche toujours nos passionnés de vélo.
Et vous distribuez maintenant, des bobs aussi.
Autour des Pays de la Loire, il y avait une tête d'affiche française que le grand public ne connaît pas, Kevin Vauquelin, même s'il a gagné étape sur le Tour de France l'an dernier. Et c'était la grande star. À côté de ça, il y avait Sam Bennett qui a fini maillot vert du Tour de France il y a 2 ans. Il est passé incognito. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour que les gens se passionnent encore plus de cette époque-là, avec ce qui s'est passé il y a quelques années, mais qui est toujours là, quelque part, ce syndrome dopage dans le vélo. Il faut des Français. Mmh. Et là, on les a pas.
Alors, Stéphane est avec nous au 32-16, justement, pour participer au débat. Stéphane, alors qu'on a entendu Maria Azé, on va la retrouver parce que le départ de Paris-Roubaix, c'est dans un instant. Stéphane, salut. Merci d'être avec nous.
Oui, salut à tous.
Alors, fan du vélo, bien sûr.
Ah oui, oui, absolument, absolument. Fan de vélo et de rugby, donc j'étais voilà, d'accord avec bien. Le constat qui a été
bonne
donné.
Bonne journée à toi, au revoir.
Bonne journée à tous, bonjour à tous. Je crois qu'on bouge, bonjour à tous, c'est passé,
bonjour.
Passé dans le silence.
Stéphane, alors tu te situes comment par rapport à cette histoire du vélo? Est-ce que tu ne trouves pas qu'on est quand même dans une période où ce sport arrive à amener de nouveaux adeptes? Moi, c'est l'impression que ça me donne. Voilà, des nouveaux adeptes qui sont fans aussi parfois de tactique, qui sont fans de choses qu'on n'avait pas forcément tout le temps à l'époque.
Alors, je suis un petit peu mitigé dans cette histoire parce que, je commence à être un peu âgé, hein, j'arrive à la sixième dizaine. Et moi, je me souviens que déjà dans ma jeunesse, les cours de récréation et sur les places du village, on parlait énormément de vélo. Enfin, je pense que certaines personnes de ma génération vous le diraient, c'était peut-être en termes de commentaires le sport numéro un en France. Quand le Tour de France ou les grandes classiques arrivaient, tout le monde parlait vélo. Et l'année dernière, j'avais eu le bonheur d'être sélectionné par votre radio sur une étape pour parler avec vous et j'étais dans mon village. Et c'est le seul événement sportif qui fait descendre 95% d'un village sur le bord d'une route pour voir passer des coureurs pendant quelques secondes.
Parce que donc, c'est un événement gratuit
cette
aussi.
Cette magie-là, je pense qu'elle n'a pas changé. Elle est toujours aussi puissante. Et je pense que les gens qui sont sur le bord de la route aujourd'hui pour Paris-Roubaix vivent exactement les mêmes émotions que ceux qui y étaient il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mmh. Par contre, aujourd'hui, il y a une médiatisation beaucoup plus forte, mais avant, on était collé au transistor. On était collé au transistor pour écouter les grandes retransmissions. Moi, j'ai des souvenirs visuels de certaines étapes du Tour et de certaines grandes classiques qui n'étaient pas diffusées. Tellement on vivait ça d'une manière intense. Alors évidemment, aujourd'hui, on a les affrontements Van der Poel, Pogacar. D'ailleurs, moi, je pense plus à Van Aert et à Pedersen aujourd'hui, et même peut-être à Ghana d'ailleurs, pour une victoire finale. Mais il y a une multiplication des très grands champions. Et puis surtout, on sort d'une ère fétide avec l'Américain et tout ce qui a traîné autour, qui a pas failli tuer le vélo, parce que c'est pas un sport qu'on pourra tuer, mais qui a fait énormément de mal. Et aujourd'hui, Carpe Diem, pour le moment, on vit une ère de nouveaux grands champions, jeunes, plutôt sympas, communicants, qui ont bien appris leur boulot. C'est merveilleux. Alors oui, peut-être que de ce point de vue-là, on vit une époque un petit peu à part, parce que c'est vrai que Merckx et d'autres n'étaient pas obligatoirement d'un abord très facile. Et ils pensaient d'abord à gagner avant de penser à faire un peu de com', quoi.
Non mais voilà. C'est important la communication, Stéphane, pour le développement d'un sport. Et c'est vrai que là, ce qu'on voit, bon voilà, on en a parlé depuis le début de l'émission, mais ce duel au sommet Van der Poel contre Pogacar, il y a une série, on en parlait hier, une série qui s'installe, ça s'installe sur les classiques, on a envie de les revoir, on a envie de les retrouver. Tout ça est très bien monté aussi en épingle par les médias et ça fait que ça nous offre des courses souvent formidables. Justement, en parlant de la course, on va retrouver Maria Azé qui va nous commenter le départ dans quelques instants de ce Paris-Roubaix, donc très attendu, première en pro donc pour Tadej Pogacar sur les pavés de Paris-Roubaix avec une densité extraordinaire. On ne sait pas qui va gagner et c'est ça qui fait le sel de cette classique. Maria, dans quelques instants le départ.
Oui, d'ici 700, 800 mètres le départ. On est encore dans le départ fictif ici à Compiègne pour la 122e édition de Paris-Roubaix. C'est bien évidemment le directeur de course, Thierry Gouvenot, qui va donner le départ. 259,2 km de course, 30 secteurs pavés longs de 55,3 km. Alors ça va partir aussi surtout, vous en avez parlé toute la matinée hein, sur ce grand duel, pour ce grand duel entre Mathieu Van Der Poel qui veut aller chercher son troisième titre consécutif et Tadej Pogacar pour qui c'est la première sur les pavés du Nord et qui va tenter de rentrer dans le cercle très fermé de ceux qui ont remporté Paris-Roubaix et le Tour de France dans leur carrière. Voilà, c'est parti d'ici 400 mètres, départ réel d'ici 300 mètres, oui, arrivé prévu autour de
Pogacar il va partir direct là, hein, c'est ça.
Il devrait attendre un peu,
la route soit un peu plus parsemée de pavés, mais l'image forte, c'est le je disais ça hors antenne, hein. on est sur un visage des coureurs qui est comme nulle autre course, c'est-à-dire que tu sens là ça rigole pas, on discute pas, on plaisante pas en tête de peloton, on sent que les coureurs sont à la fois très concentrés au départ de Paris-Roubaix. Et bon, j'ai fait un bide sur mon débat, mais ils ont peur. Au départ, c'est la seule course de l'année où tu as peur de te faire mal.
Donc en gros, tu perds ton débat, t'en parles quand même. Je porte plainte.
Il est très fort.
C'est très habile.
C'est comme ça, c'est l'art de se faufiler dans l'échappée, tu vois.
Alors que ce soir, c'est la dernière journée de NBA.
Bien joué. Ce qui fait pas peur, a priori.
Ça fait un peu peur.
Alors, Maria, le top départ.
Et c'est parti, c'est parti. Et c'est Christian Prudhomme qui est le patron du Tour de France qui a donné le départ. Et Paquet Thirigou, pardonnez-moi mon erreur. Mais c'est parti, ça y est, 258,9 km de course avant l'arrivée. Ça promet une après-midi exceptionnelle, messieurs, dames.
Et oui, après-midi exceptionnelle que l'on va vivre en direct sur RMC. Avec toi, Maria, on te retrouvera tout au long, bien sûr, de ce parcours. Avec toi, Christophe, merci beaucoup. Et tu vas nous faire vivre ça à partir de 15h également en direct en intégralité avec Jérôme Coppel. Hein. C'est bien ça. Hein.
Exactement, je vais le chercher à la gare et j'emmène le montagnard sur les pavés. Il connaît pas bien ça, on va lui expliquer comment ça marche.
On va suivre ça évidemment avec vous, messieurs, tout l'après-midi. Le grand événement de ce dimanche, Paris-Roubaix. Merci beaucoup.